Les bouteilles achetées, Michel Lafont est soulagé. Il n'aura pas à boire de l'eau du robinet.
J'ai pris un pack de 6 bouteilles pour passer le week-end. Et puis on verra lundi s'il faut aller au ravitaillement, on ira. Arrivé à nos âges, il est préférable de faire attention à sa santé quand même. Hein.
Car depuis jeudi, un arrêté préfectoral restreint la consommation d'eau du robinet dans sa commune et une trentaine d'autres en Haute-Garonne. Concrètement, de l'eau en bouteille doit être utilisée pour la boisson et la préparation des repas des enfants de moins de 14 kilos. Mais ici, ce sont tous les habitants qui ont pris peur. Une mesure préventive, affirme la préfecture, conséquence de la détection d'une pollution au chlorate dans la Garonne et ses canaux dérivés. Selon le maire, une usine de papier située en amont de la commune serait en cause.
Je vais prendre contact avec l'entreprise Fibre Excellence pour demander des explications, pour éviter de nouvelles pollutions de ce type.
De nouvelles analyses doivent confirmer la baisse des taux de chlorate. La levée des restrictions est prévue pour mardi. En attendant, le maire l'affirme, l'eau du robinet reste potable pour le reste de la population.
Ce qui a motivé l'invitation de Au Secours 31, c'est un communiqué de presse du 17 janvier 2026 qui parle de pollution de la Garonne au chlorate et de la restriction d'usage de l'eau de 32 communes de la part du préfet de Haute-Garonne et du peu de visibilité aussi des annonces, des restrictions, etc.
Cette pollution au chlorate, dans un premier temps, d'ailleurs, l'un des articles de la Dépêche était ambivalent parce qu'il laissait entendre que c'était lié au processus de traitement de l'eau potable elle-même à l'usine du Fousseret, qu'il y aurait eu cette pollution au chlorate. Parce que les chlorates, en fait, c'est un élément qui est utilisé effectivement dans le traitement de l'eau pour qu'elle soit potable. Il y avait des relevés qui montraient que sur le canal de Saint-Martory aussi, il y avait une pollution au chlorate. Il y a eu des relevés qui ont été faits vers Saint-Gaudens et qui ont montré en fait aussi que c'était lié à une usine, à la papeterie en fait, l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens, hein, où il y avait des dépassements de seuil de chlorate très importants. Alors le préfet a demandé à l'entreprise de prendre des mesures. Apparemment ne l'a pas fait dans les jours qui ont suivi et donc il a pris un arrêté de mise en demeure hein, pour imposer à l'entreprise de prendre des mesures pour réduire les pollutions. Alors, cette entreprise était déjà pointée à l'occasion d'une autre situation où il y avait des polluants qui avaient été mis en évidence. Et au moment de cette enquête de Radio France qui avait été faite à l'échelle nationale, où ils avaient prélevé, en fait, ils avaient essayé de voir s'il y avait des PFAS sur un certain nombre de points de prélèvement. Et ils avaient constaté qu'à Martre-Tolosane, près de Martre-Tolosane, il y avait des PFAS. Bon, interrogation. Et une des hypothèses qui avait été émise, justement, c'était que c'était potentiellement l'usine Fibre Excellence qui pouvait en être à l'origine. En l'occurrence, là, c'est vrai que le préfet a pris des mesures quand même assez rapides, hein, parce que il y allait de la santé publique de manière très très vive, puisque ces chlorates, en fait, au-delà du dépassement du seuil, pardon, autorisé, sont dangereux, notamment pour les enfants en bas âge. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs que la mesure touchait les enfants en bas âge. Au-delà, disons, ça montre que il y a besoin d'une vigilance accrue sur la présence des polluants dans l'eau qui va être ensuite potabilisée, parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est soumis à une multiplication des pollutions possibles. Et ça, disons que ça demande en fait, y compris une intervention citoyenne, parce que il peut y avoir dans certains cas, alors on voit de plus en plus maintenant, quand il y a des dépassements de seuil, eh bien, on adapte les seuils. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits...
Il y a des dérogations aussi.
Oui, quelque part, c'est ça. C'est que, quelque part, il y a des endroits où on atteint des situations telles ou tellement difficiles que le seuil, selon les acteurs publics qui sont en charge, il ne peut plus être tenu. Donc, on modifie le seuil. Voilà, on modifie la règle. Le produit, lui, il est toujours là, quoi. Et donc, c'est pour ça que là, on s'interroge beaucoup. On a d'ailleurs un groupe de travail sur la question de la qualité de l'eau, parce qu'on essaie de voir comment il serait possible d'avoir une vigilance accru au-delà de l'intervention des agences publiques elles-mêmes.
Oui, voilà,
l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'Agence de l'eau elles-mêmes font des mesures sur l'eau et tout ça. Mais on pense qu'il y a besoin d'acteurs indépendants aussi qui puissent mener ce travail. Tu as parlé de contre-pouvoir tout à l'heure aussi, enfin, en tout cas de présence des citoyens dans ce champ-là pour qu'il y ait possibilité d'alerte aussi sur un certain nombre de points. Ça a été le cas par exemple dans le Gers où c'est un pharmacien qui a joué ce rôle, qui a fait faire des mesures avec des associations. Après il a travaillé avec des associations, mais il a fait faire des mesures sur la présence de certains pesticides, de certains produits. Dans le Gers ils sont extrêmement exposés aux pesticides agricoles et donc ils ont mis en évidence la présence de certaines molécules largement au-delà, et ils ont mis en évidence aussi l'inefficacité de certaines stations qui étaient vétustes, enfin, dans le traitement de l'eau, quoi. Il nous semble qu'il faut maintenant, disons, prendre en compte ces acteurs qui sont des acteurs comme Génération Future, l'UFC Que Choisir, enfin des acteurs qui sont crédibles, hein, qui ont mené des travaux parfois sur du temps assez long et qui mettent en évidence des choses que sur lesquelles on n'avait pas forcément de vision globale. Génération Future elle a publié une carte là récemment sur la question des PFAS. L'UFC Que Choisir aussi alerte sur d'autres aspects. Enfin, il nous semble que les acteurs publics devraient s'appuyer aussi, prendre en considération, c'est une d'ailleurs des propositions qu'on fait dans le cadre de notre manifeste là, pour les prochaines municipales, où s'appuyer aussi sur ces acteurs-là, disons, pour avoir un regard distancié et réellement, détaché de toute empreinte, par exemple, de lobby éventuel.
L'eau, on la boit, nos enfants la boivent, on cuisine avec, on se lave avec, chaque jour. Elle est au cœur de nos vies et surtout de notre santé. Mais savez-vous vraiment la qualité de l'eau qui coule à votre robinet ? C'est une information d'intérêt général qui est pourtant particulièrement difficile d'accès. C'est pourquoi Génération Future et Data for Good s'allient pour créer une carte qui permettra enfin aux citoyens et citoyennes de savoir la qualité de l'eau qui coule à leur robinet. Sur cette carte, je peux vérifier en un clic si l'eau de mon robinet contient des polluants chimiques. Forcément, ça donne envie d'agir pour que chacun et chacune d'entre nous puisse avoir une eau de qualité qui coule à son robinet. Le site dansmoneau.fr regroupe tous nos conseils pour répondre à vos questions et surtout la pétition à signer pour une meilleure surveillance, protection et gestion de notre eau potable. Alors, tapez votre adresse et vérifiez la qualité de l'eau qui coule à votre robinet.
En termes de lobby, moi je pense à Veolia.
disons que par rapport à la question de Veolia, Suez, bon, alors ça nous fait rentrer dans quelques détails par rapport à la genèse de leur contrat. Au moment où il y a eu renégociation, est-ce qu'il faut rester en délégation de service public ou passer en régie publique. Au passage, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a énormément de villes maintenant qui repassent en régie publique, qui reprennent le contrôle de leur gestion de l'eau. C'est quand même à noter dans la période 2017-2018 jusqu'en 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a eu une bataille très importante autour de la question du passage ou pas en régie publique. Et à ce moment-là, en fait, nous, on avait mis en avant un scénario passage en régie publique avec y compris des tarifs et tout ça. Veolia et Suez ont mené une bataille très très forte pour garder ce marché de la métropole toulousaine qui pour eux était très très important au niveau national, quoi. Y compris en termes symboliques, parce que c'était une grande ville. Ils ont fait une proposition qui s'est alignée en dessous de tarifs que pouvait proposer la régie publique qu'on mettait en avant, justement pour préserver le marché. Ce qui a permis à la municipalité donc d'alors de dire qu'ils avaient l'eau, ils avaient obtenu l'eau la moins chère de France. Alors maintenant, ils disent plus ça, ils disent la deuxième, je crois, la deuxième la moins chère de France. Bon. Mais en tout cas, donc, c'était Veolia a négocié ça d'une certaine manière, presque en sachant qu'ils allaient sûrement être en difficulté par rapport à la question tarifaire. Donc là, on a été retrouvés tout récemment maintenant à la question justement de la gestion liée au changement climatique et à toutes les évolutions qu'on évoquait auparavant, avec la mise en place de la tarification saisonnière. saisonnière. Et donc la tarification saisonnière, ça a été d'une certaine manière une façon aussi pour Veolia de récupérer une partie, disons, du déficit qui s'accumulait en fait pour eux. Parce que, enfin, j'explique très rapidement, mais c'est un peu technique, mais quand la métropole a mis en place la tarification saisonnière, ils l'ont mise en place au mois de juin 2024. Il y a eu 5 mois pendant lesquels là, l'eau a été plus chère, hein, sur cette année 2024. Mais comme la tarification saisonnière est supposée fonctionner quasiment de manière neutre sur une année, là, en fait, ces 5 mois sur lesquels elle a fonctionné en tarif été, c'était avec 42%, avec une eau à 42% plus chère. Donc pendant ces 5 mois, en fait, Veolia a engrangé tout ça en plus. Hein, ça a permis de constituer une sorte de cagnotte, puisque la tarification saisonnière n'a pas été mise en place sur la période où l'eau était 30% moins chère en hiver. Voilà, c'est ce qu'on a fait apparaître. Nous, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, mais même depuis toujours, on ne dit pas, justement parce qu'on considère l'eau comme quelque chose d'extrêmement important, on ne dit pas qu'il faut que l'eau soit au prix le plus bas. On pense que l'eau doit être au juste prix. Et le juste prix, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le juste prix. Notamment, ben, le changement climatique et la raréfaction potentielle de l'eau, elle va peser dans les prochaines années. Mais les pollutions croissantes et tout ça, elles pèsent aussi. Parce que plus on avance et plus il y a de pollution à traiter. Et donc, plus ça coûte cher. Mmh. Donc, potentiellement, on a une eau qui va être plus chère, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on propose que, en fait, à la place d'une tarification saisonnière qui, selon nous, est illusoire, enfin bon, je ne vais pas trop comment dire, entrer dans le détail, mais on propose une tarification progressive, nous, et sociale d'une certaine manière, c'est-à-dire qui permet de prendre en compte, disons, ces différents paramètres en même temps du niveau de consommation et le caractère social, quoi, c'est-à-dire la consommation domestique, hein, d'une famille, et puis aussi la consommation industrielle ou agricole ou qui est d'une autre nature. Donc cette tarification progressive, elle se décline avec plusieurs paramètres, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait, par exemple, les 20 premiers mètres cubes gratuits, hein, les 20 premiers mètres cubes qu'on estime vitaux annuellement, et puis après une tarification progressive en fonction, avec des tranches, hein, en fonction de la consommation. Et avec des aspects particuliers, disons, pour les gros acteurs dépensiers, enfin, en eau. Et un paramètre aussi d'ajustement au niveau social, hein, pour les familles nombreuses, par exemple. Et c'est vrai qu'on a considéré longtemps que l'eau était abondante et que donc, quand l'eau courante est arrivée dans les maisons, c'était quasi miraculeux, quoi, enfin, de pouvoir utiliser l'eau alors qu'auparavant, on allait la chercher parfois à des points d'eau qui étaient lointains. Et donc, c'est vrai qu'avoir l'eau dans la maison, c'était quelque chose d'extraordinaire et un facteur de progrès immense. Mais en même temps, bon, on en a sûrement perdu, disons, la notion, hein, de ce qu'elle était vraiment, cette eau-là, quoi. Ce débat, il remet en avant, disons, justement, une partie du rapport à l'eau. Pour citer un exemple, c'est le débat autour des piscines, là, en est un petit peu symptomatique, quoi. Hein, bon, et c'est vrai qu'on voit que quand on dit, par exemple, que la tarification saisonnière est illusoire, les principaux utilisateurs, enfin, d'eau chez les particuliers, hein, par exemple, ceux qui ont des piscines, par exemple, ben, c'est tout simple, hein, ils remplissent leur piscine avant le passage en tarification été. Et puis même, c'est pas, en fait, dans ce cas-là, quand on a une piscine, très souvent, on n'est pas à quelques dizaines d'euros près, disons, pour l'utilisation de l'eau.
C'est une ressource aussi précieuse que fragile. L'eau est aujourd'hui au cœur des préoccupations chez la nouvelle génération.
Est-ce que les stations d'épuration fonctionnent toujours bien ?
Comment l'eau remonte des nappes phréatiques ?
Quand je prends une douche, combien je consomme de litres d'eau ?
Autant de questions auxquelles cette journée va pouvoir répondre.
C'est lequel qui aurait le moins d'impact, qui consommerait le moins d'eau ?
La pomme.
Ici, un atelier pour sensibiliser ses élèves de 6e à la préservation de la quantité d'eau.
Je pense que dans 100 ans, on n'aura presque plus d'eau dans le monde.
C'est eux qui aussi sont dans un monde qui est en évolution. C'est important de pouvoir se rendre compte que ces enjeux-là les concernent, leur donner le pouvoir d'agir.
Donc ça me permet d'aborder une autre dimension, c'est la dimension éducative dans le rapport à l'eau. Et c'est pour ça qu'une autre de nos propositions, c'est la question d'une école de l'eau, d'un autre rapport démocratique à la gestion de l'eau dans les collectivités.
J'ai vu que les contrats avec Veolia et Suez arrivent à échéance en 2032.
Tout à fait.
C'est non pas très longtemps. Est-ce que tu penses que le prochain mandat métropolitain peut être décisif?
Totalement, ouais. Totalement. Là, nous, on a rencontré notamment et on a envoyé notre manifeste aux listes qu'on avait identifiées sur la métropole pour leur parler de cette question-là, notamment, de la place globalement de la question de l'eau dans une politique métropolitaine, mais aussi de cette question, effectivement, du passage éventuel en régie public va être discuté dans le prochain mandat, tout à fait.
Et ça changerait quoi concrètement pour les habitants et les habitantes de passer en régie publique?
Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les voitures de Veolia, il y a marqué service public de l'eau, enfin je crois quelque chose comme ça, et ça s'appelle Eau Toulouse Métropole, et donc il y a une espèce de tentative de cacher l'entreprise Veolia derrière un supposé service public de l'eau. Or, le service public, c'est quand même autre chose. C'est vraiment poser les questions au départ totalement différemment, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la question du profit qui doit être dégagé qui régit la gestion de l'eau. C'est tout un tas d'autres dimensions, dont le caractère vital de cet élément, sa protection, les nécessités liées à sa dépollution, enfin tout ça, et tout le réseau, la gestion de tout le réseau qui est lié à l'eau aujourd'hui et qu'il faut préserver, entretenir, développer avec de nouveaux matériaux. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est dans certains cas, on a des parties du réseau qui sont vétustes et qui peuvent générer elles-mêmes des pollutions par ce qu'on appelle les CVM, les chlorures vinyles monomères, qui sont un polluant, c'est un gaz en fait qui se dégage sur des fonds de canalisation quand elles sont dans certains matériaux et en fin de canalisation, enfin en fin de réseau ou dans des zones rurales quand il y a des endroits où l'eau ne court pas tout le temps, quoi. Donc la question des réseaux, elle est très importante en termes de gestion. Mais donc le service public, ça permet aussi de mettre la question de l'eau dans un cadre plus global où on va l'appréhender vraiment sur tous les aspects du champ social. Je m'exprime plus précisément en disant, par exemple, quand on évoque la question de l'école de l'eau, quand on évoque la question de la participation des citoyens à une démocratie de l'eau, tout ça, pour nous, c'est la même chose. Parce que si on dit, par exemple, on pourrait créer une espèce d'entité, alors on l'appellera comme ça sera décidé, mais une espèce d'entité où on ferait appel à des citoyens qui sont intéressés par la question de l'eau à venir en discuter et ensuite à déléguer des représentants dans le cadre de la régie publique, ça pose les choses autrement, disons, en termes de rapport citoyen et de rapport du collectif, disons, à la gestion de l'eau elle-même. Alors, sur la question des tarifs, ça permettait de les poser aussi de manière transparente, c'est-à-dire de dire, ben voilà, là, par rapport aux paramètres que j'évoquais tout à l'heure, s'il y a des facteurs évolutifs négatifs, les faire appréhender par la collectivité dans une transparence, c'est essentiel pour leur acceptation et leur compréhension. S'il faut que l'eau augmente parce que il y a une rareté, que le débit de la Garonne il a diminué de tant de pourcents, que on a tel et tel nouveau polluant à traiter, tout ça, ça se comprend. Je crois que les gens ils sont capables de le comprendre, mais si on le met sur la place publique. Or aujourd'hui, quand on a une gestion dominée, disons, par des intérêts privés et par la nécessité de dégager des profits, la chose est très différente, quoi.
Alors c'est vrai que Veolia communique beaucoup en termes de publicité sur l'écologie, le développement durable. Alors évidemment, tu évoquais un peu le greenwashing tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de transition écologique quand la logique reste extractiviste et industrielle?
La réponse est en partie dans la question. Mais c'est vrai que, comment dire, on voit bien que les municipalités aujourd'hui... y compris de tous bords, on va dire, enfin de tous bords, en tout cas qui ne sont pas forcément les plus progressistes, sont obligés de prendre en compte certains paramètres d'évolution des choses. Hein, ben, là, par exemple, on voit que dans Toulouse, il y a un verdissement qui pointe le nez. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire il faut mettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que c'est tout un rapport différent à la construction de la ville, à l'urbanisation, ou pas d'ailleurs à l'urbanisation, en tout cas à la gestion de ces espaces urbains, qu'il faut poser comme le substrat quoi, et le fondement. Or aujourd'hui, bon, c'est des politiques segmentaires quoi, parcellaires, hein. C'est-à-dire que tant que par exemple on n'aura pas une vision plus globale au niveau politique de ce qu'est l'idée même du développement de la métropole, enfin de son, quand je dis développement, c'est pas forcément justement de sa croissance. Est-ce qu'une métropole comme Toulouse peut continuer à grandir comme elle grandit aujourd'hui en recevant de nouveaux habitants sans cesse? Je crois pas, moi. Avec le dérèglement climatique et toutes les évolutions actuelles, il faut penser justement un autre modèle de développement, enfin en tout cas de vie de nos métropoles et de nos territoires dans leur ensemble. C'est-à-dire que là, enfin, on dépend de l'amont et l'aval dépend de nous, quoi. C'est-à-dire que une politique ne peut se construire qu'en prenant en compte ce qui s'est passé en amont et ce qui va se passer en aval. Particulièrement l'eau, elle est symbolique de ça, elle est représentative de ça. Hein. Toutes les politiques qu'on peut construire autour de l'eau, elles doivent prendre en compte ce qui se passe sur les autres territoires, et on doit prendre en compte, avoir la responsabilité de cette eau pour ce qu'on va la rendre aux autres en aval, quoi.
Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'auquel on a marre d'être bouillu. C'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec.